Laurent Berger est notre invité ce midi sur BFM TV. Monsieur Berger, le Sénat a voté la réforme des retraites hier soir tard. Elisabeth Borne se félicite sur Twitter. Olivier Dussopt redit sa détermination à sauver le système par répartition. Et vous, comment est-ce que vous réagissez?
C'est pas une surprise, le vote du Sénat. D'ailleurs, Monsieur Retailleau l'a bien résumé. C'est notre réforme, celle qu'on présente depuis des années à chaque projet de loi de financement de la sécurité sociale au Sénat. Donc, personne ne s'attendait à un vote négatif du Sénat. Mmh. Donc, jusqu'à cet épisode-là, il n'y a rien de surprenant. Maintenant, c'est la semaine qui vient qui va être déterminante. Une commission mixte paritaire, dont je pense qu'il n'y a pas grand-chose, grande surprise à en attendre. Et puis ensuite, le vote des parlementaires, à la fois du Sénat, bien sûr, mais aussi de l'Assemblée nationale, qui, je le rappelle, pour l'instant, ne s'est pas exprimée sur ce texte.
À l'Assemblée nationale, il n'y avait pas eu de vote. Est-ce que malgré tout, vous considérez que ce vote au Sénat hier soir donne une légitimité démocratique au texte qui, selon vous et selon les opposants à la réforme, manquait à ce texte après la discussion à l'Assemblée nationale?
Mais vous savez, la question de la légitimité, elle ne se pose pas quand il s'agit du Parlement. Le Parlement, il est légitime.
Ah, c'est ce que vous dites, vous, c'est pas toujours ce que disent les opposants politiques.
Vous savez, je ne suis engagé que sur ce que je dis, moi. Mm-hmm. On est d'accord. Donc, la légitimité démocratique, elle existe. Mais la légitimité, elle n'est pas que légale. Elle n'est pas que réglementaire. Le Parlement n'en est pas le seul dépositaire de la légitimité démocratique dans notre pays. Il y a d'abord le gouvernement, évidemment, qui est aussi tout à fait légitime, le président de la République, qui évidemment est tout à fait légitime. Et puis, il y a une autre forme de légitimité, qui est la légitimité de la démocratie sociale. Et donc, la démocratie in fine, dans sa globalité, c'est la composition entre ces différentes légitimités. Et on pourrait d'ailleurs en prendre d'autres sur les secteurs associatifs, la légitimité de la liberté de la presse, etc. Mais la légitimité de la démocratie sociale, c'est quoi aujourd'hui? C'est qu'on est dans une situation très paradoxale. On est dans un pays où il y a une réforme des retraites qui a un impact énorme sur la vie des travailleurs et particulièrement des travailleurs les plus impactés, c'est-à-dire ceux qui ont les carrières les plus modestes. C'est 2 ans de vie, certains disent. C'est une belle expression, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça va avoir un impact concret sur la vie des travailleurs et travailleuses très important.
Mais ce vote au Sénat, c'est une mauvaise nouvelle pour les opposants à la réforme, ce vote au Sénat.
Mais ce vote au Sénat, c'est pas une mauvaise nouvelle. C'est la réalité de ce que moi je pense que les sénateurs ont tort de voter cette réforme, mais c'est leur liberté. Donc je vais essayer d'aller au bout. On a une réforme qui a beaucoup d'impact sur la vie des travailleurs. 90% des actifs dans l'opinion la rejettent. 70% des Français la rejettent dans l'opinion. Donc on a un facteur opinion qui est quand même très massif, plus massif qu'on ne l'a jamais connu sur beaucoup de réformes. Deux, on a les plus grandes mobilisations sociales de ces 50 dernières années. La manifestation de mardi dernier, c'est la plus forte qu'on ait jamais connue depuis au moins la fin des années 80. Tout ça dans un calme absolu. On est d'accord. Dans une grande responsabilité, dans une grande diversité géographique et professionnelle. Les gens qui manifestent aujourd'hui, c'est pas quelques secteurs. Et on a un débat parlementaire qui, jusqu'alors, a été escamoté, y compris au Sénat.
La question que j'allais vous poser,
par la procédure
nous
rapide.
Nous allons parler, M. Berger, du 49-3 potentiel à l'Assemblée. Est-ce que ce 44-3 au Sénat, pour vous, c'est une entaille dans ce processus?
Je pense que quand on ne peut pas aller au bout des débats, et moi, ce n'est pas à moi d'en pointer la responsabilité, qui est, à mon avis, largement partagée, mais quand on ne peut pas aller au bout des débats, ça pose un problème quand il y a une telle expression démocratique des citoyens qui s'expriment. Et donc, le problème, il n'est pas de la légitimité légale, y compris d'ailleurs sur la semaine à venir. On va en reparler, le 49-3, c'est constitutionnel, c'est un outil légal. Et donc, vous ne trouverez jamais la CFDT pour dire que c'est antidémocratique. Ça pose un vice démocratique. Ça pose un vice démocratique si on est obligé d'aller sur des procédures parlementaires qui sont escamotées au moment où s'exprime dans la rue et dans l'opinion un mouvement de contestation puissant contre cette réforme.
Ceci dit, au Sénat, hors 44-3, dans une procédure de parole plus normale, l'article 7 a été voté.
Oui, bien sûr.
C'est l'article sur l'âge de départ.
Exactement, l'article qui reporte l'âge de départ. Est-ce que ça change quelque chose et est-ce que ça risque
Mais encore une fois, je vous répète que au Sénat, personne ne pensait que ce serait l'inverse. D'ailleurs, ce qui m'a étonné, moi, au Sénat, ce n'est pas le vote de l'article 7. C'est le fait qu'il y ait des sénateurs qui soient de la majorité sénatoriale qui ne votent pas.
Une minorité.
C'est ça.
Ah ben évidemment, une minorité. Mais je vous ai pas
c'est
dit l'inverse.
C'est un signal faible pour vous.
N'essayez pas de me coincer. Je vous ai dit, ce qui m'interroge, c'est qu'une minorité de la majorité sénatoriale, qui pour autant est une majorité de droite, ne l'ait pas voté.
C'est un signal faible pour vous, ça, de ce qui va se passer derrière ?
Je crois qu'il y a un signal faible aujourd'hui du côté des parlementaires, faible ou plus ou moins faible, d'une interrogation de la de passage de cette réforme, alors que dans l'opinion, il est grandement rejeté. Et il est grandement rejeté, encore une fois, il faut regarder la mobilisation d'un point de vue géographique.
Ouais. Partout en France,
c'est fondamental. C'est fondamental. Et je crois que les parlementaires, ils sont très, qu'ils soient sénateurs ou députés, ils sont très accrochés à leur territoire. Ils sont très à l'écoute de leur territoire.
Est-ce que vous pensez que le gouvernement aura sa majorité à l'Assemblée pour voter le texte?
Ça, j'en sais rien. Moi, je ne suis pas un commentateur politique.
Mais vous ne leur parlez pas aux députés?
Bien sûr qu'on leur parle.
Donc vous avez une petite
idée
tout de même.
Bien sûr qu'on leur parle. Moi, je pense qu'il y a beaucoup de députés de la majorité, en tout cas une part non négligeable de députés de la majorité et des autres groupes parlementaires, y compris des Républicains, qui s'interrogent aujourd'hui sur l'opportunité de voter cette réforme. Mmh. Et moi, je les appelle non pas à avoir une logique de règlement de compte ou je ne sais quoi, je les appelle à regarder ce qu'est la réalité de l'opposition démocratique et l'opposition sociale à cette réforme.
Donc vous dites aux députés les Républicains, soyez courageux, sortez de la ligne imposée par Éric Ciotti, ne votez pas cette réforme.
Moi, je suis jamais donneur de leçons. Donc je ne dirais pas que c'est une question de courage ou autre. Je dis, regardez en pleine conscience de ce qu'est votre rôle, c'est-à-dire de la représentation du peuple, de ce qu'est la mobilisation dans vos circonscriptions, d'un monde du travail qui est le monde du travail normal, j'ai envie de dire. Ces travailleurs et travailleuses qui, dans les préfectures, les sous-préfectures, les départements ruraux comme les départements urbains, font tourner l'économie, aiment leur travail, souvent aiment leur entreprise, mais qui disent « non, c'est pas possible ». Regardez dans leur grande diversité, y compris de vote, etc., qui ils sont. Et vous verrez que cette réforme, elle est rejetée et que vous emporterez par votre vote une responsabilité. Et donc, je leur dis
vous
juste
leur
ça, et pas que... C'est pas moi qui leur mets la pression.
Ah bah si, un petit peu.
Indirectement, vous dites vos électeurs vous mettent la pression.
C'est le rôle aussi. On n'exerce pas une responsabilité. On l'a tous sous des formes de pression. Mais ce que je veux dire, c'est les citoyens qui leur mettent la pression. C'est les mobilisations sociales comme l'opinion qui leur mettent la pression. Et je m'adresse pas qu'aux Républicains. Je m'adresse aussi aux gens, aux parlementaires du groupe majoritaire.
Mais qu'est-ce qu'ils vous disent individuellement, Monsieur Berger, puisque vous parlez avec eux. Qu'est-ce qu'ils vous disent individuellement? Est-ce qu'ils sont sensibles à vos arguments?
Oui. J'en ai même entendu qui me disaient qu'ils étaient totalement d'accord et qu'ils allaient voter cette réforme. Totalement d'accord avec nous.
Et pourquoi?
Et qu'ils allaient voter la réforme.
Quoi, par conscience, par obligation politique?
Par discipline de groupe, par impossibilité de faire autrement. Enfin, me dites pas, vous qui leur parlez, me dites pas que c'est l'inverse. Dites-moi que vous avez trouvé dans le groupe majoritaire que des supporters de cette réforme. Et moi, je leur dis, on n'a rien contre vous. On n'a rien contre vous. On n'est pas dans une démarche politique. Au sens politicien du terme, la CFDT. On est dans une démarche sociale, on est dans une démarche démocratique. Et ce qui s'exprime de la part des travailleurs et des travailleuses, c'est un rejet de cette réforme, pas par idéologie. Quand vous circulez dans les cortèges syndicaux et les manifestants, vous le voyez, par sentiment de vouloir être
Monsieur
considéré
Berger,
et que notre travail soit pris en compte.
Ce que font
ça,
tous les partis là actuellement, c'est compter. Tout le monde compte. Ces hommes, ces femmes, pour savoir si le texte sera voté ou pas voté. Évidemment, la majorité présidentielle est la première à compter. Il y a d'ailleurs un coup de pression. Le bureau Renaissance a dit à ses élus, vous votez, c'est tout, sinon vous serez mis de côté. L'objectif, c'est d'éviter le 49-3, le passage en force. Ce matin, vous l'estimez, je cite, impossible. Pourquoi ?
Moi, je pense qu'on ne peut pas, je vous le redis, avoir une telle mobilisation, une telle opinion qui est adverse, qui est contre cette réforme, une procédure parlementaire escamotée et avoir un vice démocratique par le vote de cette réforme par un recours au 49-3. Enfin, je pense que ce serait extrêmement extrêmement dangereux dans le ressentiment que ça pourrait créer. C'est-à-dire le 49-3, encore une fois, je veux bien être très clair et je le dis ce matin encore dans la presse. Le 49-3, c'est légal. Personne vous dira du côté de la CFDT, c'est illégal.
Mais c'est pas légitime.
Je pense que ça n'a pas pleine légitimité dans le contexte. Et dans cette réforme, telle que je viens de vous décrire, ces différentes composantes de comment ça se passe.
Vous dites c'est dangereux, attendez, M. Berger, ça veut dire quoi, c'est dangereux?
Mais attendez, vous savez que c'est quand même à peu près tous les citoyens, excepté les retraités qui ne sont pas au minimum contributif, tous les citoyens sont concernés par cette réforme. Tous. On ne peut pas aller, enfin je pense que ce serait extrêmement dangereux, alors qu'il y a une opposition énorme et avec un mouvement social qui est le plus puissant de ces 50 dernières années, on ne peut pas aller... avec une procédure qui ferait qu'il n'y aurait pas de vote in fine de l'Assemblée nationale. Dangereux, ça veut dire que, vous savez, on va peut-être commenter le nombre de manifestants, etc. Les cortèges, quand vous avez été dans les, quand vous avez fréquenté comme moi beaucoup les cortèges Nico et de manifestants ces dernières semaines, vous avez vu beaucoup de joie, de fierté des métiers, de contestation de cette réforme, mais beaucoup de convivialité, de sociabilité, etc. Moi, je voudrais pas qu'il y ait moins de monde dans les cortèges et plus de colère dans les têtes. Vous voyez?
Donc c'est une sorte de chantage que vous faites au gouvernement.
Si vous utilisez
le 49.3, il y aura de la violence et au fond, on vous aura prévenu.
Non. Mais d'abord, le chantage, je sais pas moi. Mais pourquoi vous dites que c'est du chantage? Je vous parle d'une réalité telle que je le reçois. Aujourd'hui, le monde du travail, il est opposé à cette réforme. Grandement opposé. Et on sort d'une période de pandémie et on est dans une période de forte inflation. Vrai ou faux? On est face à devant nous un mur en termes de transition écologique qui va avoir un impact sur les emplois et le travail phénoménal. Qu'on le veuille ou non d'ailleurs. Et qu'on l'accompagne socialement ou non, de toute façon, il y aura des impacts. Et on va dire que vous allez travailler 2 ans de plus, mais qu'il n'y aura pas eu une procédure parlementaire qui va... Je le dis, c'est pas la même chose pour la CFDT, un vote des parlementaires. On continuera d'être opposé et on continuera de dire ce qu'on pense de cette réforme des retraites que le recours au 49.3.
Pour que ce soit très clair, vous êtes exactement sur la même ligne que Philippe Martinez, hein, qui veut, s'il y a recours au 49.3, poursuivre et amplifier le mouvement. Ça, vous êtes raccord avec lui?
Non, mais je vous en ai parlé, de la poursuite du mouvement, là. Je vous ai parlé de la procédure parlementaire. Oui, mais non, mais vous la posez. Attendez, on va se mettre d'accord. Vous la posez en faisant des affirmations. Vous êtes. Non, posez-moi des questions.
Êtes-vous d'accord dans ce cas-là? Êtes-vous d'accord avec Philippe Martinez qui a dit clairement que
je pense que
si
l'inter syndicale devra discuter de la façon dont on poursuit le mouvement social. C'est-à-dire qu'il est hors de question. Vous imaginez bien, à l'issue d'un vote, qu'on dise, ben voilà, vous pliez les Gaules. Pourquoi il est hors de question de ça? Parce qu'il y a des gens tapis dans l'ombre. Il y a des gens tapis dans l'ombre pour utiliser la colère qui sera celle des citoyens à ce moment-là. Je crois le Rassemblement National, on va être très clair. On ne les a pas vus. Ils ne disent rien sur les retraites.
Si Marine Le Pen dit, si je suis élu en 2027, cette réforme sera défaite parce que je reviendrai dessus.
Et ben voilà. Et ben, c'est un exemple de ce qui va se passer dans les semaines à venir et de ce qui va prospérer, etc. Donc le mouvement social, les organisations syndicales, ils auront une responsabilité. La responsabilité de donner des perspectives aux travailleurs et travailleuses. Et je vous ai cité un certain nombre de sujets, que sont l'inflation, que sont l'avenir du travail. On n'en a pas parlé, en fait. On fait une réforme du travail sans les travailleurs et sans parler de leur réalité concrète du travail. La question de la transition écologique, je l'ai dit, du pouvoir vivre, du pouvoir de vivre décemment. Vous savez, c'est ça qui s'exprime aussi dans les manifestations.
D'un mot, pardonnez-moi,
donc,
M. Berger,
verra,
on analysera
ensemble, mais si il y a vote, la CFDT, elle reconnaîtra la légitimité du vote.
Et le mouvement s'arrête par ça.
Excusez-moi, M. Berger, je voudrais revenir sur un point précis parce qu'il est très important. Vous avez mis en parallèle des mouvements sociaux précédents, évidemment les Gilets jaunes, tout le monde en a parlé ces dernières semaines, en comparant en gros la violence qui s'est exprimée dans certains de ces mouvements en 2018. On se souvient des scènes parfois hérissantes, notamment à l'Arc de Triomphe, et les manifestations d'aujourd'hui disant, mais c'est un fait, il y avait beaucoup moins de monde à l'époque, il y avait beaucoup plus de violence, et le gouvernement a cédé 13 milliards à l'époque. Ça veut dire qu'en gros, vous dites au gouvernement, s'il y a de la violence, vous cédez? C'est ça que vous dites?
Ah mais non, je l'ai dit depuis plusieurs semaines. J'ai dit qu'on on est face à un problème. On est face à un problème majeur. C'est-à-dire que le plus gros des manifestations des Gilets jaunes un samedi, c'est 284 000 personnes. Hier, qui n'était pas le plus haut de la mobilisation, c'est chiffre de la police, plus de 300 000, 350 000 personnes hier, dans les rues en France. Plus que le plus fort du mouvement des Gilets jaunes. Sans violence, trop à cause d'idiots et de casseurs, etc., et que je condamne sans réserve, évidemment, ce matin, mais sans commune mesure avec, malheureusement, ce qu'on avait connu au moment du mouvement des Gilets jaunes. Et vous l'avez dit vous-même, 13 milliards à la fin, il ne peut pas ne pas y avoir d'écoute. Enfin, comment c'est reçu, hier, en circulant dans le cortège, comment c'est reçu la fin de non-recevoir du président de la République de recevoir les organisations syndicales? Très mal.
C'est le courrier qu'il vous a envoyé.
Oui, c'est un courrier qui laisse...
Vous le prenez comment?
Écoutez,
vous avez des mots durs dans la presse.
Oui, mais comment vous pouvez le prendre autrement que par un sentiment de sidération? Il y a une partie des courriers qui est factuellement faux, parce qu'on parle de caisses, d'instances qui n'existent pas.
Caisse supérieure des retraites.
Voilà, la caisse supérieure des retraites.
N'existe pas.
On a des arguments fallacieux, on nous renvoie à l'agir carco, etc. À rire, moi, ça m'arrange, parce que ça montre qu'on est capable d'être responsable, évidemment, et on l'est à chaque fois qu'il est nécessaire pour équilibrer le système des caisses de retraite complémentaires. Et on nous dit, on vous a écouté avant janvier. Et maintenant, il n'y a plus la peine. Mais c'est pas à nous qu'on renvoie ça.
C'est quoi,
parce que nous, c'est pas le problème. Les responsables des organisations syndicales, on s'en fiche en fait. D'une certaine manière, d'aller à l'Élysée, moi, je veux dire, je sais pas. On renvoie ça à qui? On renvoie ça aux gens qui manifestent. on renvoie ça à ces travailleurs et travailleuses, encore une fois, dans leur grande diversité.
C'est une provocation ?
Non, je ne parle pas de provocation. Je parle je crois que c'est une forme de surdité à la réalité sociale. C'est-à-dire que on a aujourd'hui une forme de confrontation entre une gouvernance au tableau Excel qui a un impact concret sur la vie des gens et une France du travail et dans sa grande diversité et qui est la France de voilà de
vous dites surdité à l'instant ce matin vous avez des mots beaucoup plus durs que ça hein, monsieur Berger pour répondre à la lettre du président de la République.
Oui, mais je pense que c'est une forme de bras d'honneur hein. Je pense que c'est une forme de renvoi dans les 20 mètres, c'est d'actualité, ouais. Une actualité heureuse pour la France. C'est une force dans les 22 mètres, c'est une forme de renvoi dans les 22 mètres. On dit, c'est pas mon problème. Mais le problème, vous savez, le problème qui va être posé, je sais bien qu'il y a une espèce de microcosme en disant les relations entre les uns et les autres. Le problème, c'est pas ça. Le problème, c'est pas la relation entre la CFDT et le gouvernement, la CFDT et l'Élysée, etc. Le problème, c'est le problème de la prise en compte du réel de cette France qui est heureuse de travailler, qui a des problèmes au travail, qui voudrait qu'on en parle, n'est pas cette France des feignants comme on a essayé de nous le dire fin janvier en disant vous voyez les Français veulent pas travailler. C'est pas vrai, les Français ils travaillent, il n'y a jamais eu autant de gens au travail. Un situation de l'emploi qui s'est améliorée. Et c'est cette France-là qui travaille. C'est pas une France politisé au sens qui va en découdre avec tel ou tel. C'est des salariés qui me disent on a un travail qui est parfois harassant, qui a un impact physique pour nombre d'entre nous. On a été là pendant le Covid, notamment ces travailleurs de première, deuxième ligne. On nous dit 2 ans de plus et circuler, il n'y a rien à voir.
Sur cette France du réel, juste pour que les choses soient très claires. Jeudi, il y aura soit un vote, soit un 49-3. Quelle que soit la situation, même si c'est un 49-3, est-ce qu'il y a un scénario où la CFDT continuerait à dire il faut que cette loi soit retiré, il faut que cette loi ne soit pas promulguée, ou est-ce que tradition démocratique oblige, quel que soit le scénario, vous prendrez acte du fait que cette loi a été votée.
La CFDT, quoi qu'il arrive, elle respectera la légalité. Elle ne sera jamais dans l'atteinte des biens et des personnes, ni à lutter contre, à faire du mal à la démocratie. D'ailleurs, en ce moment, j'ai l'impression que ce n'est pas de notre côté qu'on fait du mal à la démocratie. C'est du côté de l'exécutif, je le dis comme je le pense. Et donc la CFDT, elle continuera à dire tout le mal qu'elle pense de cette réforme. C'est pas pareil d'avoir un passage au 49-3 que d'avoir un passage. C'est ce que j'essaie de vous expliquer.
Oui, mais c'est quoi la conséquence pour la CFDT ? On a du mal à comprendre comment est-ce que
On le décidera mercredi prochain en intersyndical. On va le décider ensemble. Et s'il y a des divergences, il y aura des divergences, mais on le décidera ensemble. Mais vous voyez bien que le match, il n'est pas fini. Il y a une nouvelle mobilisation mercredi prochain, jour de la
CFDT. De la commission mixte paritaire.
Sauf si elle avait lieu plus tôt, parce que le vote au Sénat était plus tôt, mais en tout cas, au moment crucial des votes ou du passage au Parlement.
Vous pensez vraiment, M. Berger, qu'ils peuvent encore reculer ?
Mais moi, je n'appellerai toujours à la raison jusqu'au bout. Vous savez, la démarche syndicale...
J'entends bien votre démarche,
sincèrement
qu'ils peuvent, avant jeudi prochain, une épiphanie, on a compris, on arrête.
Non, je crois que les parlementaires ont une responsabilité. Ils ont, quand vous êtes au Parlement, vous représentez les gens qui vous ont élus pour le faire, et que chacun et chacune des parlementaires est en face d'un choix de responsabilité. Et je les appelle à bien réfléchir. Et c'est pas une menace, un chantage, etc. C'est une grande considération pour leur mission et leur responsabilité. Et je crois qu'il y a aujourd'hui dans ce pays une contestation de ce mouvement, une contestation, pardon, de cette réforme des retraites et un problème démocratique. Je crois qu'on a une France fatiguée et qu'on n'a pas pris ça en compte. On a un monde du travail qui aujourd'hui est bouleversé.
D'un mot là-dessus, Monsieur Berger, parce que ça fait 2 fois que vous utilisez l'expression. Donc vous nous dites ce matin, comme vous le pensez, pour reprendre vos mots, que le président de la République qui est garant des institutions et donc de la démocratie, la bafoue en ce moment ?
Non, j'ai pas dit qu'il la bafouait, j'ai dit qu'il n'y avait pas prise de conscience de la crise démocratique qu'on est en train de traverser et que l'épisode qu'on est en train de vivre la creuse. Et moi, je ne m'y résous pas. Et donc, vous savez, la grande considération des uns et des autres, c'est « mais la CFDT aurait-elle changé ?» La CFDT, elle n'a pas changé. Elle est préoccupée par 2 choses. Elle est préoccupée par le devenir de chacun et chacune des travailleurs de ce pays, et notamment la reconnaissance de ceux qui sont les plus fragiles, et elle est préoccupée par la démocratie, et notamment la démocratie sociale, et le fait que dans notre pays, on puisse vivre correctement et de façon apaisée en termes de cohésion sociale.
On revient en direct dans un instant, M. Berger, pour la suite de cette émission. Dans quelques secondes, je vous montrerai 3 photos. Vous en choisirez 2, elles sont liées à l'actualité, et nous poursuivrons nos échanges. À tout de suite.
BFM Politique avec Laurent Berger, secrétaire général de la CFDT. Monsieur Berger, c'est l'heure des photos. Vous allez voir trois photos apparaître sur lesquelles il y a Éric Dupond-Moretti, Philippe Martinez et l'équipe de France de rugby. Quelle première photo choisissez-vous ?
À l'équipe de France de rugby. Ouais.
Victoire hier historique en Angleterre, 53-10, suivie par plus de 7 millions de téléspectateurs. Ça fait un peu plus de 46 points de part de marché. Est-ce que l'équipe de France de rugby a plombé la manif ?
Non, je ne crois pas, mais il y a des gens, j'en connais, qui ont préféré regarder, être sûr d'être chez eux pour regarder l'équipe de France de rugby. Non, elle n'a pas plombé la manif, mais elle a fait un exploit incroyable et que, quand on peut prendre un peu de plaisir, il ne faut pas s'en priver.
Vous ne l'avez pas vu du coup le match ?
Je l'ai vu avec un peu de retard, mais ce n'est pas grave, hein, c'était le même match. C'était, et si vous éteignez un peu, vous fermez les
écouteurs. Il y a moins de suspense, vous connaissiez le résultat.
Non.
Non, vous aviez pas.
Ah, vous avez demandé dans la manifestation.
La manifestation, elle était déjà à 17h45, était déjà bien entamée. Moi, j'étais dans le cortège chef d'été. Donc, après, il suffit d'être un peu malin. Et...
Vous êtes supporter ?
Je suis pas un spécialiste du rugby. Je suis pas comme François Chérec. Mais là, c'était vraiment un vrai plaisir. Ouais.
Il nous reste deux photos. Éric Dupond-Moretti ou Philippe Martinez. Lequel choisissez-vous ?
J'ai pas envie de commenter ce qui s'est passé à l'Assemblée, donc je vais prendre Philippe Martinez.
Il était à votre place sur ce plateau le 19 février. Je vous propose de l'écouter.
Il faut se méfier de ce qu'on dit dans les journaux et de ce qu'on peut écouter de la part de certains journalistes.
Donc vous n'êtes pas copain.
Ça veut dire quoi, copain ?
C'est ce qu'a dit Laurent Berger, même sur BFM TV, il a dit que vous étiez copain.
Vous allez le vexer là, attention. Hein.
Non, c'est assez franc justement entre nous. On est deux responsables syndicaux qui on s'entend plutôt bien, même quand on n'est pas d'accord. Donc on s'entend encore mieux quand on est d'accord.
C'est d'une logique implacable. Est-ce que c'est la bromance ou c'est pas vraiment la bromance ?
Non, c'est on sait avec Philippe Martinez qui nous sépare. Ce soir, on n'est pas d'accord. Y compris sur la réforme des retraites, par exemple. Nous, on veut un système universel des retraites. On plaide, on n'a pas eu le temps assez d'en parler dans toute cette période, mais nous, on pense qu'il faut un système des retraites beaucoup plus juste, et donc c'est pour ça qu'on a milité depuis toujours et on a porté des propositions sur un système universel des retraites. On sait qu'on n'a pas le même rapport à la négociation, à l'engagement dans un compromis, qu'on ne porte pas toujours les mêmes visions du rôle de l'État. Donc, on est deux courants syndicaux historiques du syndicalisme qu'on représente aujourd'hui, et donc on a des divergences, et quand il a fallu s'en expliquer et de le dire publiquement, on l'a dit. Là, on a un point commun, on est contre le report de 62 à 64 ans. Et après, ça fait de nous ni des personnes qui seront d'accord sur tout, ni des ennemis, ce qu'on n'a jamais été. Moi, je n'ai pas d'ennemis à part l'extrême droite dans ce pays.
Il s'en va en avril, vous allez être triste ou pas ?
Il part dans 10 jours, là, ouais. Non, mais vous savez, j'en ai vu passer des responsables des uns et des autres, etc. Non, mais j'ai du respect pour lui. J'en ai pour d'autres, j'ai du respect pour pas mal de responsables des organisations syndicales et patronales aujourd'hui, quasiment tous, j'ai du respect pour eux. Donc j'ai du respect pour Philippe Martinez, je pense qu'on a été assez intelligents pour mener ce mouvement social ensemble et c'est pas fini. Et après, on continuera, peut-être un jour, on prendra un verre tous les deux.
Pour regarder le rugby ensemble, par exemple.
Je ne suis pas sûr que ce soit un spécialiste.
Ah, si, je crois qu'il
aime bien le rugby. Ah ouais, vous connaissez mieux que moi, vous voyez.
Non, je ne pense pas.
Monsieur Berger, revenons sur la journée d'hier. Vous l'avez dit vous-même, elle a été moins suivie que la précédente journée dans la semaine. Il y en avait deux dans la même semaine, c'est vrai. Mais c'était aussi un samedi. Deuxième samedi qui est traditionnellement un mouvement différent, souvent plus important, parce que les gens peuvent venir sans amputer leur salaire, sans poser difficulté à leur entreprise et parfois en famille.
Non, c'est pas un mouvement plus important. C'est le samedi, généralement, on l'a bien vu, le dernier qu'on avait fait, celui d'avant, il n'était pas plus important que la manifestation du 31 janvier. C'est une journée différente, ça c'est vrai. Avec la possibilité de venir en famille, avec la possibilité pour des salariés qui peuvent pas se permettre de faire grève en semaine de venir, et on le voyait bien hier quand j'ai remonté le cortège chez FDT, la part des salariés de la propreté était encore très très importante, ou de l'hôtellerie restauration, c'est-à-dire que en hôtellerie restauration il y avait aussi ceux qui travaillent le samedi, mais il y avait plus de monde de ces secteurs-là. Et puis c'est vrai que c'était des salariés qui, ça commence à peser, vous voyez, sur le pouvoir d'achat. Donc moi je crois que les chiffres de la mobilisation d'hier, il faut les prendre au regard aussi de ceux qui étaient la mobilisation qui a eu lieu le 7, c'est-à-dire mardi dernier. celle-ci, c'était la plus importante manifestation de toute l'histoire récente.
Justement, donc, vous parliez d'un mouvement historique un mardi. N'empêche que quand on regarde dans le détail, sur les taux de grévistes, ça baisse hein, par rapport
mais en fait,
aux
les taux de grévistes,
c'est pas un premier signe d'essoufflement.
Non, mais en fait, vous n'avez qu'une partie des taux de grévistes. Vous avez le taux de grévistes du public. Mm-hmm. Vous n'avez pas le taux de grévistes du privé.
Oui, enfin, le taux de grévistes du public est quand même assez, emblématique.
Mais, il est emblématique parce que vous savez, je crois qu'on a ce mouvement social, on le regarde avec les lunettes des années 90. On le regarde avec les lunettes des années 90, c'est en gros, est-ce qu'il va y avoir une grève par procuration? Est-ce que c'est le taux de grévistes qui pèse? C'est pas le taux de grévistes. Dans la manifestation de mardi, moi j'ai des salariés du nettoyage qui m'ont dit qu'ils repartaient au boulot après, comme dans chaque manifestation. Donc, et dans le privé, il y a eu des taux de grévistes qui étaient extrêmement importants. Une députée qui m'a dit que dans sa circonscription, là, une des grandes entreprises qui était de 100 salariés, hein, il y a des circonscriptions rurales, il y avait 10% des salariés, le patron lui avait dit, il y avait 10% des salariés qui, dans les manifestations successives, se sont sortis pour faire grève. Le bon curseur pour savoir, vous savez, ces manifestations, c'est un lieu de sociabilité, c'est un lieu d'expression démocratique. C'est ça qui compte. De mon point de vue, c'est ça qui compte, je vais le dire franchement. C'est-à-dire que ça nécessite de faire grève pour venir en manifestation pour nombreux salariés, pour d'autres, c'est d'autres choses. Moi, je connais des gens qui ont posé des jours de congé pour venir en manifestation, ce qui est quand même un acte démocratique.
Justement, mais combien de temps ça peut durer, Monsieur Berger, compte tenu de tout ce que vous venez de nous dire? Parce que le gouvernement, on l'explique depuis le début de cette émission, il ne cède pas, il vous a même dit qu'il ne céderait pas du tout, qu'il ne vous parlerait même pas, là, pour l'instant, en tout cas, Emmanuel Macron. Donc, oui, mais, combien de temps ça peut durer? Combien de temps les gens vont poser des jours de grève, perdre des jours de salaire, etc.?
On propose encore mercredi, puis ensuite le processus parlementaire, on verra comment on conclura les choses. Je vous ai dit, on décidera mercredi soir. Mais mercredi, moi, je pense qu'il faut encore faire une journée de mobilisation qui soit forte pour montrer la détermination. Et après,
et ça changera pas grand-chose.
Vous savez, après, à la place qui est la mienne, il faut avoir fait ce qu'on devait faire. Et puis, on n'est pas responsable pour les autres. On n'est pas responsable pour nos interlocuteurs. Je pense, je le dis, c'est ma conviction profonde. S'il y a le vote de ce texte, a fortiori sur 49.3, il y aura un grand ressentiment démocratique et un monde du travail qui se sera senti méprisé. Et moi, ma préoccupation, c'est que ce mépris ne se transforme pas en colère. Hier, dans le cortège, on sentait plus de colère, tout en étant extrêmement responsable, pacifique, etc., que les jours précédents.
Et c'est intéressant ce que vous dites, parce qu'au fond, quand on vous écoute maintenant, par rapport à il y a quelques semaines, on comprend non pas que vous avez intériorisé le fait que la loi passerait, mais que vous êtes maintenant davantage dans l'après. C'est-à-dire, au fond, nous, on se sera opposé à cette réforme. Elle va sans doute passer. Mais le sujet, c'est de s'assurer que Marine Le Pen ne soit pas élue en 2027, qu'il n'y ait pas trop de ressentiment dans le corps social. Je résume à peu près ce que vous pensez ou pas?
Non, à l'heure qu'il est, mon sujet, c'est mercredi, une nouvelle mobilisation pour montrer l'opposition. Et un appel aux parlementaires à regarder très finement la situation et à voter en conscience.
Mais vous n'êtes pas très optimiste sur la possibilité de changer le cours des choses?
Je pense que la majorité au Parlement, c'est compliqué. Mais ça peut se passer, j'en sais rien, je ne suis pas un spécialiste. Mais si vous me demandez si je pense qu'on va avoir cet après-midi un coup de fil du président de la République ou de la Première ministre pour dire on retire la réforme, je vous dis que j'y crois pas du tout. J'ai reçu un courrier.
Vous appelez, M. Berger, au référendum. Vous demandez au président de la République de présenter ce texte aux Français.
Mais nous, on part
vous
du
savez
constat,
que ça n'arrivera jamais.
On part de ce constat d'une impasse démocratique dans laquelle on est.
Ouais.
Je vous l'ai illustré tout à l'heure. Un fort mouvement social, un rejet de l'opinion, une procédure parlementaire escamotée et une incapacité de dialogue de la part de l'exécutif face au mouvement social. Et je dis, puisque vous ne faites pas confiance à la démocratie sociale, écoutez au moins les citoyens. Moi, je ne suis pas un adepte du référendum par principe, la CFDT ne l'est pas. Mais regardez, demandez aux citoyens si le passage de 62 ans à 64 ans sur cette unique question, c'est quelque chose qu'ils acceptent.
M. Berger, quand vous regardez l'ensemble des sondages, et je pense qu'à l'Élysée, ils ont une cellule qui est consacrée à ça, les résultats sont assez clairs. Le président de la République ne va pas proposer un texte aux Français, sachant pertinemment ce qui va sortir
c'est extrêmement
de cette consultation.
C'est extrêmement intéressant ce que vous dites. Est-ce que, dans cette période, je le rappelle, pour le corps social, pour le monde du travail, où vous êtes dans une période post-pandémique, avec des gens qui ont joué le jeu, mais vraiment des salariés qui ont joué le jeu pendant cette période. Tout le monde l'a loué, tellement qu'on les a applaudis à 20h. À qui on a dit, pour nombre d'entre eux, vous aurez une reconnaissance. Parce que quand même, on s'est aperçu qu'être hôtesse de caisse, que travailler dans le nettoyage, travailler dans l'agroalimentaire, etc., quand même, c'est difficile et vous avez été là et on vous a pas assez considéré.
Ils l'ont découvert.
Ces salariés de ces secteurs qui, quand on regarde selon une étude de la DARES, sont ceux qui ne se voient le moins aller jusqu'à 64 ans et qui d'ailleurs n'y arrivent pas souvent malheureusement parce qu'ils sont cassés. On leur a dit, vous allez avoir une reconnaissance. La reconnaissance qu'ils ont, c'est 2 ans de plus, parce qu'on n'a pas été capable, à part par des accords, parfois, dans les branches professionnelles, qu'on a signées, qu'on assume, d'avoir des augmentations de salaire, mais rattrapées. Ça, c'est le premier constat. C'est le premier constat. On est dans la période, on est dans un conflit du travail post-pandémique. Personne n'en parle assez, mais ça joue dans les têtes. Le deuxième constat, c'est le monde du travail est percuté par un autre sujet important. C'est la question de l'inflation et la capacité à pouvoir vivre décemment. Et à émerger dans le débat, grâce, je crois, à nous, entre autres, le fait que c'est du travail qu'il faudrait parler. Et là, c'est ce que je dis, c'est que si on ne tient pas compte de ce monde du travail, on passe à côté du sujet. C'est-à-dire qu'on a deux réalités. On a cette réalité sociale que personne ne peut contester et une aspiration à pouvoir vivre autrement de son travail et à pouvoir être considéré autrement dans son travail. Et de l'autre côté, un gouvernement qui regarde le tableau Excel et qui fait une réforme des finances publiques.
Mais justement parce qu'il regarde son tableau Excel, il ne proposera jamais le texte au référendum. Et vous le savez.
Vous pouvez
le déplorer, mais vous le savez.
Ah, mais vous savez, quand vous êtes un responsable syndical ou un syndicaliste dans une entreprise, parfois vous dites voilà, on peut s'en sortir de telle manière.
Oui, tout en sachant très bien qu'ils n'accepteront pas.
Ça ne veut pas dire que. Mmh. Mais il y a aussi des initiatives parlementaires qui peuvent être prises sur cette consultation des citoyens.
La suite du mouvement, Philippe Martinez, j'ai pas 100% d'accord avec vous.
On se pose la question, parce qu'effectivement, Philippe Martinez, il dit déjà très clairement que quand on n'est pas écouté, on n'a pas d'autre solution que de poursuivre et d'amplifier le mouvement. Solidaire est sur la même ligne. Est-ce que vous êtes sur cette ligne aussi? Est-ce qu'il faut poursuivre et amplifier, puisque c'est un dialogue de soi?
Mais d'abord, vous n'êtes pas en train de me dire, c'est pas vous qui êtes en train de me dire que je ne suis pas forcément d'accord, surtout avec Philippe Martinez, je viens de vous le dire. C'est pas un souci, non, mais on le sait.
Vous êtes quand même dans une intersyndicale.
Vous savez, je veux dire, le compromis politique qui est fait par ce gouvernement, c'est d'adopter la réforme de M. Retailleau. Donc vous voyez, des fois, il y a des alliances qui sont encore plus bizarres que l'intersyndicale entre les organisations syndicales de ce pays, qui est quand même une pratique répandue en Europe. Moi, je vous le dis comme président de la Confédération européenne des syndicats. Non, je vous dis qu'il y a dans des secteurs professionnels des traditions revendicatifs qui sont ce qu'ils sont, qu'elles sont, et j'accepte, mais les travailleurs de l'agroalimentaire dont je vous ai parlé, les travailleurs de la propreté dont je vous ai parlé, la grève reconductible, c'est une vue de l'esprit. On pourrait être tous d'accord là-dessus en disant qu'il faut appeler à 15 jours de grève qu'on se mettrait le doigt dans l'œil. Moi, la CFDT, je vous le dis, nous, la CFDT, mais l'organisation que je représente, elle est composée à 65% des salariés du privé, et parmi eux, une grande proportion de ces travailleurs de la première et deuxième ligne, et parmi eux, une grande proportion de salariés de petites et moyennes entreprises.
Mais Monsieur Berger, vous êtes dans une intersyndicale. Pour ceux qui nous regardent, il y a des gens qui espèrent prendre des trains qui sont annulés. Il y a des Parisiens, par exemple, qui voient les poubelles s'amonceler devant chez eux parce que les ordures ne sont plus collectées par les éboueurs. Est-ce que vous dites ces modes de protestation, il faut les continuer, il faut les amplifier, ou est-ce que vous disiez... Attendez, je termine ma question. Fin janvier dans Le Monde, vous disiez que l'efficacité syndicale, je cite, ne se mesure pas au niveau d'emmerdement concret pour les citoyens.
Je continue de vous le dire. Et l'intersyndicale, Monsieur Duhamel, moi aussi je vais finir, l'intersyndicale, elle n'a jamais appelé à ce type d'action.
Oui, mais Philippe Martinez les soutient et demande à les amplifier.
Mais l'intersyndicale, ce sur quoi on est d'accord entre nous, on n'a jamais appelé.
Et la CFDT cheminots, que je sache, continue à soutenir les mouvements de protestation.
Oui, parce que je vous ai parlé tout à l'heure de particularités professionnelles et de fait que à la CFDT cheminots, on pèse 15% à la CFDT cheminots, il y a un choix des cheminots.
Compliqué à suivre pour l'agence.
Donc,
c'est compliqué à suivre parce que les gens, ils sont habitués qu'il y a un responsable qui siffle dans son sifflet, et tout le monde va voter une loi. C'est pas comme ça dans l'organisation syndicale, toujours.
Mais juste pour qu'on s'y retrouve, c'est-à-dire que là, à l'heure actuelle,
il y a des... Juste sur les déchets, il n'y a pas la CFDT dans le mouvement à Paris, sur les déchets, et je vous le dis, la CFDT, elle sera préoccupée à ce qu'on garde l'opinion.
Donc vous êtes en désaccord avec ce mode d'action.
On n'appelle pas à ce type d'action, et l'intersyndicale n'y appelle pas, que je sache. Et qu'après, il y a des spécificités, mais je vous ai dit qu'on était tous différents.
Alors justement, l'intersyndicale, elle risque pas de se fracturer sur cette question à terme, puisque les mouvements reconductibles sont en cours.
Vous savez, d'abord, ils sont pas les mouvements reconductibles. Encore une fois, les équipes CFDT, et il y en a pas beaucoup, qui ont décidé d'aller sur ce type d'action, c'est leur responsabilité. C'est pas les appels que la CFDT lance. Deuxième point, c'est que un point sur lequel je voudrais être très clair, la CFDT ne soutiendra jamais aucune atteinte aux biens et aux personnes.
Donc quand il y a, par exemple, l'électricité coupée dans une permanence ou chez une élue?
Je condamne, j'ai vu qu'il y avait une sénatrice en Meurthe-et-Moselle qui en avait été victime, je condamne. je suis sans état d'âme là-dessus. Vous savez, on n'est pas dans une guerre. La guerre, on sait ce que c'est, malheureusement, pas nous forcément, mais on sait ce que c'est à nos frontières presque, à la frontière de l'Europe. On est dans un conflit social. On se doit de respecter nos règles démocratiques et nos principes qui sont être respectueux des biens et des personnes et le faire en responsabilité. Là-dessus, la CFDT ne sera pas prise à défaut. Et la poursuite de l'action, c'est mercredi. L'appel de l'intersyndicale, c'est une journée de mobilisation mercredi. Et après, évidemment que dans ce type de mouvement social, il y a toujours des façons de faire différentes selon les secteurs professionnels. Je vous invite aussi à regarder la grande responsabilité des manifestants. On ne l'a pas assez souligné dans tous les cortèges qui se déroulent.
On l'a beaucoup dit.
Était
calme. Un mot encore. Nous recevons Olivier Dussopt ce soir, ministre du Travail. Vous avez un message, une question pour lui ?
Non, je ne sais pas quoi lui dire, en fait. Je vais être franchement. J'ai envie de lui dire, monsieur Dussopt, vous êtes le ministre du Travail. Quand on est ministre du Travail, on a de la considération et de l'écoute pour les travailleurs dans leur grande diversité. Aujourd'hui, ils sont opposés à une réforme des retraites parce que ça a un impact très concret. Et votre discours ne peut pas être simplement un appel à la responsabilité budgétaire ou au fait que cette réforme était dans un programme, il faut qu'elle s'applique. Il y a une majorité qui s'oppose dans le monde du travail, très grosse majorité. Pourquoi vous n'en tenez pas compte ?
Tiens, le mot travail, il en sera question après tout cela, à l'Assemblée nationale, au Sénat, il y a un texte qui arrivera. Vous irez discuter ? Vous irez à la table des négociations ?
D'abord, ça s'appelle mettre la charrue avant les bœufs, c'est-à-dire la charrue, c'était la réforme des retraites, et ensuite, on va demander à parler du travail. Je pense qu'il y aura... Le ressentiment va être profond, on va pas se raconter l'histoire. Et après, pour votre question en tant que telle, la CFDT, vous savez, sa seule boussole, et la mienne, ma seule boussole, ma seule raison d'être dans cette responsabilité, c'est l'intérêt des travailleurs et des travailleuses.
Oui, mais est-ce que le dialogue social...
Là où il se discutera...
Est-ce qu'il n'est pas irrémédiablement brisé après ce qui se passe là ?
Moi, ce qui m'agace, en fait, c'est qu'on n'est pas dans le fond des choses. Il y aura une loi travail derrière, quelqu'un est capable de dire ce qu'il y aura ? Ce sera quoi ? 3-4 sucreries pour dire, vous voyez, on vous a écouté.
Quelques pistes sur la semaine de 4 jours, le compte épargne temps universel, c'est ce que répond le gouvernement, par exemple.
Sur la semaine de 4 jours ?
Oui,
suivant M. Attal qui a dit, à tel URSSAF, j'ai demandé, dans la Somme, je crois, j'ai demandé qu'on applique la semaine de 4 jours. Vous savez, ce sujet sur la semaine de 4 jours à l'URSSAF, c'était un accord syndical avec l'employeur. M. Attal, il n'a rien à voir là-dedans. Il était pas là au moment où on a négocié cet accord et il est pas là au moment
où il a récupéré quelque chose. Ça
vous permet de mettre l'idée dans l'atmosphère.
Vous savez, il y a besoin de discuter du travail. Ouais. C'est fondamental. Il aurait fallu le faire avant. Je l'ai dit, j'y reviens pas pour l'instant. Ce dont il sera question, c'est est-ce que le gouvernement est prêt de mettre sur la table la négociation dans l'entreprise de l'organisation du travail ? Est-ce qu'il est capable de développer du dialogue professionnel ? Toutes les enquêtes en profondeur sur le monde du travail disent que les salariés ils veulent avoir de la prise sur leur travail, ils veulent écouter sur leur travail. Est-ce qu'il va revenir sur les ordonnances de 2017 en remettant des représentants de proximité dans les entreprises ? Ce sont ces sujets-là qu'on va poser. Est-ce qu'il va créer un compte épargne temps universel qui est digne de ce nom et qui va permettre à tous les salariés, et pas simplement aux salariés les plus agiles, de saisir du temps pour en bénéficier ?
Donc il n'y aura pas de politique de la chaise vide de la CFDT.
Mais la chaise vide, vous savez, de tout temps, ça n'a jamais rapporté des résultats pour les travailleurs. Et la chaise vide aujourd'hui, dans une réunion qu'on pourrait faire sur la réforme des retraites,
c'est le gouvernement.
C'est pas celle de la CFDT.
Monsieur Berger, fut un temps, votre nom faisait partie d'une liste, je sais pas si c'était vrai ou pas, mais d'une liste de potentiels occupants de Matignon. On vous disait très en lien avec Emmanuel Macron, très proche et connecté dans la façon de travailler. Est-ce que ce lien s'est détérioré ? Est-ce que c'est vrai ? Est-ce que ça s'est détérioré ? Ils vous méprisent désormais ?
C'était des bêtises, en fait. C'était des bêtises. Vous savez, dans ce pays, quand on est engagé, quand on dit avec conviction ce qu'on croit, et c'est pas une vérité, c'est des convictions aussi, quand on est responsable d'une organisation syndicale, d'une grande association, etc., et on dit, tiens, c'est pas totalement idiot ce qu'il dit, il a l'air d'être sincère, et je le suis, je vous assure, on dit, ça va forcément être un politique. En ce qui me concerne, je vous le dis, ça ne sera pas le cas.
Mais quelle était la nature de vos relations avec le président de la République ?
Je crois, ce que j'ai envie de vous dire est plus important, mais je vais y répondre quand même, que ce que je pense être votre question. Ce que je crois, c'est qu'on peut transformer le monde, transformer la société, ailleurs qu'en faisant de la politique aussi. C'est mon cas depuis maintenant nombreuses années en étant engagé syndical. Je ne ferai pas de politique. Je ne ferai pas de politique parce que je crois que ce n'est pas la vocation d'un responsable syndical.
Donc là, vous répondez à la question qui vous a parfois passé après, de votre avenir.
Non, mais ça veut dire que c'était idiot. C'est comme les trucs en disant en 2027, tout ça, ça n'a pas de sens.
Mais même dans un contexte politique ou à gauche, c'est un petit peu désertique.
Ensuite, la relation, et je viendrai à votre question, la relation avec le président de la République, ça n'a pas d'intérêt. ça n'a pas d'intérêt. On se connaît depuis avant 2012. On a travaillé en confrontation positive, démocratique du terme depuis 2012. Ça n'a pas d'intérêt. C'est pas une affaire d'ego, de testostérone entre les uns et les autres. Ça n'a pas de sens.
C'est pas le sens de la
question. Non, c'est pas ça. Mais c'est pas vous. J'élargis un peu.
La question interprofessionnelle est intéressante. Pourquoi ? Parce que parfois, quand le lien est plus fécond, ou en tout cas plus facile, on négocie plus facilement.
Je suis sur le débat d'idées. Je suis pas sur les attaques de personne. J'aimerais bien que de l'autre côté. Ce soit la même chose.
J'aimerais
bien que
de l'autre côté.
Bah, je sais pas, demander si, y compris dans les rédactions parfois, on passe pas des petits messages sur Laurent Berger serait ci, Laurent Berger voudrait.
Donc
faire
là, l'Élysée passe des messages sur vous.
Bah, c'est ce que je pense, ouais. Le dernier, je vais vous le dire, c'est que je serais d'une incroyable violence. Qui m'a côtoyé dans les 10 dernières années et peut dire que je lui ai manqué de respect ? Qui ?
Donc là, vous accusez l'Élysée de faire circuler de fausses informations à votre sujet ?
Non, je pense que comme on n'est pas capable d'aller sur le débat de fond, on va sur de la petite popole à la mode 20e siècle. Il faut arrêter ça, d'accord ? Et après, la question, c'était, même dans un contexte politique où la gauche... Mais c'est pas ma responsabilité. Ma responsabilité, c'est le devenir des travailleurs et des travailleuses qui vont être durement impactés par cette réforme, qui sont pas écoutés sur leur réalité de travail, qui vont subir l'inflation. C'est le pouvoir de vivre des travailleurs et des travailleuses. C'est ça la responsabilité d'une organisation syndicale et la nôtre. Tout le reste, c'est des considérations dans lesquelles j'ai pas envie d'entrer.
Merci beaucoup, Monsieur Berger, d'avoir été notre invité aujourd'hui sur BFM TV. Merci beaucoup, Valérie Benjamin. Tout de suite, Philippe Godin et Dominique Rizet, cette affaire suivante. Je vous donne rendez-vous à 18h pour BFM TVSD. À 19h, notez que je recevrai donc le ministre du Travail, Olivier Dussopt. À tout à l'heure.